Chronique du dessin. Récit de vie. Bonjour à toutes et à tous. Deux témoignages aujourd'hui centrés sur la libération des camps et l'ouverture des centres d'extermination dont on fête les 80 ans. Je commencerai par « Après la rafle », un témoignage de Joseph Weissmein, scénarisé par Arnaud Delalande et mis en image par Laurent Bideau pour la bande dessinée. Le récit. Joseph est un gamin de Paris, de Montmartre, qui fait les 400 coups avec ses copains dans la capitale occupée. Juif, il porte l'étoile jaune. Au matin du 16 juillet 1942, des gendarmes français l'arrêtent avec sa famille. C'est la rafle du Veldiv. Chargés dans des wagons à bestiaux, les familles juives prennent la route pour Beaune-la-Rolande, un camp de transit. Mais ensuite, un matin, deux officiers nazis se présentent au camp. Joe est arraché à ses parents et à ses deux sœurs qui sont déportées à Auschwitz. Un récit essentiel qui montre comment Joseph Weissmein va témoigner, va rencontrer de très nombreux écoliers, et donc cette réédition était importante. La première avait été soutenue par la Fondation du Mémorial pour la Shoah, et ce cahier historique qui complète la première édition pose question. En effet, là où la bande dessinée est extrêmement pertinente, parce que il y a très peu de photographies, aussi bien par exemple sur la rafle du Veldiv que sur les camps de concentration, les centres d'extermination également. Et donc, le dessin va permettre de représenter ces récits, de les mettre en images et d'avoir ainsi cet impact visuel qui est aussi très fort, qui permet une autre approche, mais une autre appropriation que le texte écrit lui-même. En fait, le cahier supplémentaire qui est écrit par un ami de la famille Weissmein, Nicole Zlatiev-Skokar, est basé sur aussi le texte écrit par Joseph Weissmein. Et là où la bande dessinée s'impose vraiment par cette puissance de représentation du récit de Weissmein, le texte de ce cahier historique reprend principalement la description du récit et montre toute la limite du texte écrit, là où, une fois qu'on a lu la bande dessinée, tout est précis, intense, puissant et vraiment fait sens à chaque image. Le texte de Nicole Zlatiev-Skokar n'apporte rien de plus. Il y a même une phrase qui semble étonnante. Elle dit à un moment, en parlant des enfants qui se retrouvent comme ça sans enfance et projetés dans ce que va être la déportation, elle dit « Ces enfants qui n'ont pas encore vécu et dont l'extermination sera la seule délivrance. » Comment peut-on qualifier l'extermination de délivrance ? Que l'on utilise le mot « issue » pour montrer aussi la dimension tragique de ces camps, mais que l'on puisse utiliser le mot de délivrance pour qualifier ce qui est une entreprise de mort est choquant. Il y a très souvent, ou parfois en tout cas, il y a cette utilisation de termes inappropriés. Tahar Benjelloun, dans un de ses livres, parle de la réussite du projet nazi avec l'extermination, cette volonté d'extermination des Juifs et l'extermination de 6 millions de Juifs. On ne peut pas parler de réussite, là aussi, d'un projet de mort. Les nazis sont parvenus à ces exterminations, mais on ne peut pas parler de réussite, on ne peut pas les qualifier de leur point de vue. Et ce nouveau cahier, eh bien, n'apporte finalement rien à la force du livre de Joseph Weissmann, donc vraiment centré sur son témoignage, et de cette bande dessinée qui est vraiment créée à partir de son récit. Une photo montre Joseph Weissmann et les deux auteurs de la bande dessinée qui arpentent les écoles, et il a la bande dessinée à son bras, et c'est assez émouvant, cette façon de personnaliser et de montrer l'importance de ce récit en images. Joseph Weissmann, Arnaud Delalande, Laurent Bidault, Après la rafle, nouvelle édition de janvier 2025. Les 136 pages de ce témoignage sont au prix de 22 euros et le livre a été publié par les Arènes Bande Dessinée. Il a été imprimé en Belgique. Poursuivons avec le deuxième volet de témoignages recueillis par Marion Achard et mis en image par Tony Galmès. Quand la nuit tombe, Mylène fait suite à un premier témoignage, celui de la sœur de Mylène, Lisou, qui, elle, avait réussi à s'échapper. Le récit montre tout de suite ce principe du témoignage, puisque Mylène, qui a 99 ans, accueille Marion pour qu'elle enregistre son témoignage. Marion est sa nièce, elle s'installe et démarre le récit de Mylène. Donc, elle part très vite dans cette enfance où elle va se retrouver jeune au moment de l'arrivée des nazis et l'extermination et la déportation des juifs de France. Le récit est donc là aussi, grâce au dessin, une représentation d'une période sur lequel, je le rappelle, il manque des documents photographiques pour vraiment pouvoir faire un récit à partir de ce type d'image. Le principe de la bande dessinée est pas seulement de représenter les moments des camps de concentration, mais aussi de montrer tout le contexte, de pouvoir le représenter, c'est la force du dessin, ainsi de recréer des contextes, et par exemple, celui de l'histoire de Mylène. En septembre 1943, née juive comme des millions d'autres, Mylène et sa petite sœur Lisou se cachent avec leur famille dans un chalet à 12 km de Grenoble. Mais le destin les rattrape et les sépare. Lisou s'échappe tandis que Mylène est arrêtée par les nazis avant d'être déportée dans un camp de concentration en Pologne. Et donc, Mylène, qui a eu un destin très différent de celui de Lisou, elle s'est sacrifiée et a vécu la réalité des camps de concentration. Donc le récit va vraiment être cette continuité avec le contexte du récit, avec comment la famille de Mylène vivait au moment de l'arrivée des Allemands, comment ils sont interpellés, les témoins, la façon dont les camps vont se succéder pour Mylène, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se passe, les relations qu'il y avait. Voilà, tous les détails sont là, mis en image, et qui prennent une réalité intense. Mais ce qui fait la réussite du projet de Marion Achard et de Tony Galmels, c'est ce rapport au dessin. Il y a une tentation pour représenter les moments absolument tragique de cette période, c'est la tendance vers l'expressionnisme, qui a toutes ses qualités. Mais Tony Galmels a choisi, lui, une autre ambiance graphique, une autre façon de représenter. On est beaucoup plus dans une inspiration issue des illustrations du 19e et du 20e siècle, avec un dessin léger qui est tracé avec une nuance de couleur foncée des tons de l'image. On est donc avec de la couleur directe. Il y a également un travail de mise en couleur avec une aquarelle, des couleurs pastel, où on sent qu'il y a la présence de l'eau et qui va donner des teintes claires. Et on n'est pas du tout donc dans cette représentation expressionniste. Il y a ainsi dans le choix aussi de représenter les personnages avec cette puissance qu'a la bande dessinée, de pouvoir synthétiser avec, par exemple, ici, très souvent, le choix de deux petits points pour représenter les regards sans forcément, systématiquement, devoir tracer l'œil complet avec le blanc de l'œil et la pupille. Les simples points suffisent amplement. Il y a donc ce côté plutôt doux dans l'image qui va représenter des choses absolument tragiques et terribles. Loin de les minimiser, il y a au contraire un accompagnement du lecteur et des jeunes lecteurs pour qui ce livre est aussi destiné pour représenter et ce que le contenu du dessin va affirmer. C'est une réussite parce que il y a vraiment un témoignage puissant. La bande dessinée montre une nouvelle fois la puissance du dessin pour évoquer ces moments de l'histoire dont il est essentiel de garder un témoignage. Et là, le dessin, avec sa très grande facilité de réalisation, mais son très grand potentiel de création d'images pour représenter, est tout à fait indispensable. Quand la nuit tombe, Mylène, le tome 2 donc de ce diptyque qui démarre avec Quand la nuit tombe, Lisou, est signé Marion Achard pour la partie scénario et Tony Galmels pour la partie dessin. C'est publié par les éditions Delcourt. Les 160 pages de ce récit sont au prix de 20,50 € et le livre a été imprimé en Belgique. Nous finissons en musique avec un extrait du Requiem polonais de Krzysztof Penderecki.